Les Canuts, troisième partie, chapitre 15. On avait emmené Marius dans une vieille maison voisine de l'église. La plupart des fenêtres n'avaient plus de vitres et les devantures avaient été éventrées par les boulets. Dans une pièce humide du rez-de-chaussée, formant l'arrière-boutique d'un petit magasin d'épicerie et s'ouvrant sur la cour, le caporal et deux hommes gardaient à vue le prisonnier, sans lui permettre de communiquer avec Louise et Eugène, restés dans la première pièce. D'abord, Marius avait eu la pensée de fuir, mais c'eût été impossible. Les baïonnettes des soldats l'auraient arrêté avant qu'il eût franchi le seuil. Résigné à tout, exténué de fatigue, il s'était jeté à terre et demeuré là, couché tout de son long, la tête vide, sans volonté. Longtemps, il resta immobile et anéanti. La pensée qu'il serait exécuté ne lui causait pas d'appréhension. La mort, il l'avait vue de trop près. Elle ne l'effrayait plus. Mais vaguement, une impression pénible passa dans son cerveau affaibli. Son père malade, il ne le reverrait plus. Plus de ses visites qui lui faisaient du bien. Pauvre père. Et Louise, elle non plus. Plus de Marius. Plus rien. Dans son esprit engourdi, cette idée de se séparer à jamais de Louise s'incrustait peu à peu et devenait plus nette, plus douloureuse. À la fin, elle le tira de sa torpeur et se traduisit par un élan d'amour et un cruel regret. Maintenant, il aimait Louise de toute l'ardeur de son âme. Pourquoi n'avait-il pas deviné plus tôt les trésors qu'il y avait dans le cœur de cet enfant? Elle eût occupé la place vide à son foyer. Elle eût empli sa vie, l'eût entourée d'affection, l'eût empêchée, enfin, de se jeter dans cette lutte insensée à laquelle il n'avait survécu que pour subir les angoisses d'un jugement et d'une condamnation. Il regrettait de n'être pas tombé en combattant. Pourquoi les soldats ne l'avaient-ils pas massacré sur le champ comme les autres? On l'avait arrêté les armes à la main. Le prenait-on pour un des chefs de la révolte et lui réservait-on une mort ignominieuse qui servit d'exemple? L'un des soldats gardait la porte de la cour, l'autre celle qui communiquait avec le magasin. Le caporal, un petit maigre à deux chevrons, se promenait silencieusement à travers la pièce, fumant sa pipe. Il eût préféré aller rendre visite à la cantinière, histoire de se débarrasser le gosier de la poudre qui l'asphyxiait. Mais la consigne était la consigne, il n'y avait pas à barguigner. Pourtant, la soupe du matin était diablement loin, et au tiraillement de son estomac, le vieux soldat sentait que l'heure du rata était passée. Dehors, malgré les reflets de la neige qui prolongeaient la clarté, le jour s'assombrissait. Bientôt, un pas ferme résonna dans la première pièce. L'officier entra. « Caporal, dit-il, emmenez vos hommes, je n'ai plus besoin de vous. » « Bien, mon lieutenant, mais le prisonnier ?»« Ne vous en inquiétez pas, c'est mon affaire. » Le caporal ne se le fit pas répéter et sortit avec les soldats. Alors l'officier s'approcha de Marius et coupa ses liens. « Levez-vous, lui dit-il, et regardez-moi bien. » Marius obéit. Les traits de l'officier ne lui rappelaient aucun souvenir. Pourtant, ses yeux, ce regard clair, mais non, c'était impossible. Mais je ne vous reconnais pas, dit-il. Vous n'avez pas la mémoire longue. Si je l'avais eue aussi courte, vous seriez maintenant couché dans l'église à côté de vos camarades. Vous ne vous souvenez donc plus, malheureux, de la journée du 22 novembre et du sergent-major, à qui vous avez sauvé la vie, rue du Pas-Étroit? « Quoi ? « C'est vous ?»«
C'est moi, » reprit l'officier. Et lui prenant les deux mains, il les pressa fortement.
« Oui, oui, » fit Marius ému. « Je vous reconnais à présent. Vous étiez plus blond et vous aviez le teint plus pâle, mais ce sont bien les mêmes yeux qui me remerciaient. »
L'officier souriait avec bonté. « Ne vous étonnez pas si j'ai bruni. Je reviens d'Algérie. C'est là que j'ai gagné mon épaulette. Mais il ne s'agit pas de ça. Passons au sérieux. C'est la seconde fois que je vous trouve parmi les insurgés. Vous êtes un rude enragé, ma parole. Mais la première fois que nous nous sommes rencontrés, vous m'avez sauvé la vie. Je suis votre débiteur. Or, comme je n'aime pas les dettes, je veux vous rendre l'appareil. Voilà la nuit, vous allez me ficher le camp lestement et quitter la ville au plus tôt. Car si vous vous faisiez attraper, ma foi, je ne répondrai plus de rien. Vous avez compris ?
Merci, reprit Marius. Sinon pour moi, qui ne tiens guère à la vie, du moins pour mon père, pour ces pauvres enfants qui sont là.
Oh, ne me remerciez pas. Nous sommes quittes l'un envers l'autre. Maintenant, esquivez-vous prudemment et n'allez pas vous jeter au milieu d'une patrouille, hein, ça ne serait pas long. Aujourd'hui, on colle au mur tous ceux qu'on ramasse.
Il lui tendit la main une dernière fois, lui dit adieu, et franchit le seuil, laissant Marius abasourdi. Étonnés de voir les gardiens s'éloigner les uns après les autres, Eugène et Louise se précipitèrent dans l'arrière-boutique. En quelques mots, Marius leur raconta ce qui venait de se passer. Ce furent deux cris de joie. Louise remercia Dieu au fond du cœur. Il s'agissait maintenant de fuir. Marius voulait aller d'abord à Limoneste embrasser son père. Là-bas, il prendrait un parti. Pendant ce temps, Louise emmènerait son frère et rentrerait chez elle. Mais Louise ne le voulut pas. Elle ne l'abandonnerait pas avant qu'il ne fût hors de danger. S'il fuyait seul, il pourrait éveiller des soupçons. Avec eux, il attirerait moins l'attention et les soldats qu'il pourrait rencontrer ne songeraient pas à l'arrêter. Marius n'insista plus. Il était à bout de force. Il avait perdu toute énergie. Puisque Louise voulait l'accompagner, il ne la contrarierait pas. Mais il fallait trouver le moyen de sortir de la ville par le plus court chemin et d'éviter les patrouilles. Il se souvint du souterrain de la rue Saint-Jean. Cette voie serait la plus sûre. Louise approuva l'idée. Eugène avait justement aperçu des chandelles dans la boutique. Il en prendrait un paquet pour guider leur marche dans le souterrain. Il faisait tout à fait nuit. Le service de l'éclairage était interrompu dans les quartiers ravagés par l'émeute, et les rues étaient sombres. Eugène sortit le premier pour examiner les abords. Avec ses chandelles, il emportait un morceau de pain de munitions laissé par un soldat. Il pourrait rester dans le souterrain plus longtemps qu'il ne le pensait. Quand il eut fouillé du regard les deux bouts de la rue,
« Venez, partons vite, » dit-il.
Il régnait un silence de mort. Sans bruit, ils s'acheminèrent par le dédale des rues étroites, la rue de la Gerbe, la rue Poulaillerie, la rue Trois Carreaux. D'un pas rapide, ils longeaient les murs dans une obscurité presque complète. Le temps s'était radouci. Le vent du midi soufflait avec force et la neige, fondant peu à peu, s'écoulait par les gouttières. Il venait de traverser sans encombre la place Saint-Nizier et se dirigeait vers la place d'Albon quand Eugène leur fit signe de s'arrêter. À l'extrémité du pont de pierre, on entendait le bruit d'une troupe en marche. Les pas se rapprochaient. Un homme parut bientôt à la tête du pont, balançant un falot dont la lumière vacillante éclairait le parapet. Rasant les murs avec précaution, les trois fugitifs se blottirent à la hâte dans l'enfoncement d'une maison. la patrouille passa sans les voir et disparut dans la rue Mercière. Alors, ils quittèrent leur cachette et franchirent le pont. Sur la rive droite de la Saône, toutes les façades étaient noires. Autour d'eux, pas âme qui vive. Ils descendirent le quai de la Baleine, prirent une allée de traverse sous l'hôtel du gouvernement et se trouvèrent bientôt rue Saint-Jean, à deux pas de la maison du perruquier. La boutique était fermée, les volets de l'aventure accrochés, et par les fentes de la porte, aucune lueur ne filtrait. Marius frappa prudemment, de façon à ne pas attirer l'attention des voisins. Rien ne bougea. Il fit le tour par l'allée. La seconde porte aussi était close.
« Diable ! » fit-il.
« Aurait-on fait une descente chez le vieux ? Il nous faudrait pourtant la clé. »«
Ne pourrait-on pas enfoncer la porte ?» observa Eugène.
« Tu as raison, il faut essayer. »
Entrant dans la cour, Marius tâta un à un les barreaux de fer d'une fenêtre basse. Un d'eux ne tenait guère. D'un violent effort, il parvint à l'arracher. Ça lui servirait à forcer la serrure. Eugène alluma une de ses chandelles. Protégeant la flamme avec la main, «
Je marche devant !» dit-il.
Tous trois s'engagèrent dans l'escalier humide qui conduisait aux caves. Marius n'eut pas de peine à retrouver la porte. C'était la dernière de la rangée de gauche, tout au fond. Machinalement, il appuya la main.
« Tiens, elle n'est pas fermée. »
La vieille porte céda. Ils entrèrent. Tout était sans dessus-dessous dans la cave. Les tonneaux avaient été changés de place. Quelques-uns étaient défoncés. On avait voulu voir, sans doute, s'ils ne renfermaient rien de suspect. Et la serrure, forcée, pendait, retenue par un clou. Il n'était pas douteux que la police avait opéré une descente. Les allées et venues trop fréquentes avaient fini par donner l'éveil et on avait voulu savoir ce que contenait cette cave mystérieuse. Avait-on découvert des armes? C'était probable. Le premier jour de la révolte, la cave était un véritable arsenal. En tout cas, il ne restait plus rien. Quant au vieux Landouin, qu'était-il devenu? On l'avait vraisemblablement arrêté, mais on n'avait pas découvert la cachette. C'était l'essentiel. D'ailleurs, il n'y avait rien d'étonnant. Marius, qui la connaissait, mit longtemps à trouver le secret. Le tonneau qui servait d'indication avait été déplacé. À force de tâtonner, il parvint enfin à retrouver la tête de clou, appuya fortement, et la paroi s'ouvrit en tournant sur elle-même. Eugène, sa chandelle à la main, passa le premier, puis il aida Louise à le suivre. Marius pénétra à son tour dans la vaste salle voûtée. Les deux enfants retinrent des exclamations de surprise. Il restait encore une caisse de fusil, des barils de poudre, plusieurs caisses vides, un drapeau. Il était évident que la police n'avait rien découvert. Ils étaient en sûreté dans ce souterrain. Ils pouvaient s'y reposer un instant. Marius n'avait pris depuis le matin qu'un demi-verre d'eau-de-vie et un peu de pain dur.
« Asseyons-nous, » dit-il. « Je meurs de faim. »
Tous trois s'assirent sur des caisses vides, autour de la chandelle piquée en terre, et entamèrent la miche d'Eugène. Accablés de fatigue, ils ne purent manger que quelques bouchées. Eugène avisa les tonneaux de la cave.
« Y a-t-il du vin là-dedans ? »
« Au fait, » dit Marius,
« oui, il y a du vin. La première fois que je suis descendu ici, j'étais censé venir goûter le vin du perruquier. Il faut bien que nous sachions ce qu'il vaut. »
Louise ne put s'empêcher de rire. Eugène revint avec une écuelle pleine et la présenta à sa sœur. Elle but une gorgée et présenta l'écuelle à Marius.
« À vous, » dit-elle. « Buvez, ça vous fera du bien. Vous êtes tout pâle.
« C'est bien possible. L'émotion
et puis on prend froid ici. »
Il eut un frisson. La réaction se produisait. Il avait la fièvre. La tête lui faisait mal et une sueur froide perlait à son front. Dès que son frère eut bu à son tour, Louise, très pâle aussi, se releva.
« Eh bien, marchons, » dit-elle.
Le trajet devait être long. D'ailleurs, on n'était pas sûr que le souterrain aboutît. La voie pouvait être obstruée, et il était bon d'avoir devant soi plusieurs heures de nuit pour fuir par une autre route, s'il fallait revenir sur ses pas.
Marius s'engagea le premier dans le couloir, tenant une chandelle d'une main et de l'autre la hampe du drapeau qu'il avait emporté et dont il se servait pour se guider.
Les murs du souterrain, bâtis en petites pierres carrées, étaient humides et tapissés de salpêtre. Le sol était couvert d'un gravier fin qui craquait sous les pieds. Il faisait une fraîcheur de cave. D'abord, la voie filait presque en ligne droite, puis elle tournait légèrement à gauche en montant. À certains endroits, la voûte s'abaissait et il fallait se courber pour ne pas se heurter la tête. Après une assez longue marche, ils arrivèrent à un embranchement. Ce devait être celui dont le perruquier avait parlé. L'une des deux voies continuait à monter, tandis que l'autre, brusquement, faisait un coude à gauche et descendait. Selon toute probabilité, elle devait conduire à une issue rapprochée. Marius s'engagea dans ce couloir. Louise et son frère, demeurés au carrefour, virent la lumière qu'il portait diminuer peu à peu, disparaître à un tournant, puis reparaître. La voie aboutissait au fond d'une petite cour entourée de vieilles maisons. Par prudence, Marius avait éteint sa chandelle et était sorti par une allée. Il avait reconnu une ruelle du quartier Saint-Paul. C'était encore trop près. Saint-Just et Fourvière étaient occupés par les troupes. Il fallait prendre l'autre voie, quitte à revenir sur ses pas si elle était sans issue. Ils se remirent en route. Les chandelles étaient à bout. Il fallut en allumer d'autres. Après un certain temps de marche, les trois fugitifs arrivèrent à une seconde bifurcation. Une chauve-souris, éblouie par la lumière, vint tournoyer autour de la flamme, et d'une des deux voies, une bouffée d'air leur arriva.
« Par ici, » dit Marius, « nous sommes à la sortie. »
Comme il se hâtait sans regarder devant lui, le pied lui manqua et il trébucha. Louise poussa un cri. Marius se retint à l'aide de son bâton. Il avait failli glisser dans un puits sans rebord qui s'ouvrait dans une encoignure. Ils passèrent outre et, marchant avec précaution, aboutirent bientôt à une sorte de terrasse dominant des bâtiments dont la masse se distinguait dans l'ombre. Le vent soufflait, balayant de gros nuages argentés par la lune. « Où diable sommes-nous ? » dit Marius, cherchant à s'orienter. Eugène regarda de tous côtés. Cet endroit ne lui était pas inconnu. Pourtant, il ne parvenait pas à se rendre compte. À leur droite, une horloge sonna un coup. « Il doit être minuit et demi ou 1 heure du matin, » reprit Marius.
« J'y suis !» s'écria le petit Gonne. « C'est l'horloge de Saint-Pierre-de-Vèze que nous venons d'entendre. Voilà au-dessus de nous le fort de Loyas. »
Déjà, il écartait les épines et les ronces qui obstruaient à demi l'orifice éboulé. Marius le retint.
« Pas de bêtises !» dit-il.
« N'allons pas nous jeter dans la gueule du loup. La grande route est à quelques pas d'ici. Nous rencontrerions plus de patrouilles que nous ne voudrions. Essayons de l'autre voie. »
Louise fut de cet avis. Ils rallumèrent leurs chandelles et, rétrogradant jusqu'à la bifurcation, s'engagèrent dans le second couloir qui, après une montée d'une centaine de mètres, suivait une ligne horizontale. Eugène avait encore faim. Assis à terre, le dos à la muraille, ils partagèrent le reste du pain et prirent un peu de repos. 1 heure du matin,
dit Marius. Si nous sortons d'ici à 2 heures, nous aurons le temps d'arriver à Limoneste avant jour. » Courageusement, ils se remirent en marche, sans rencontrer d'autres carrefours. La voie filait presque droite, mais des éboulements les obligeaient à se baisser et à ralentir leur course. Louise et Eugène s'inquiétaient. Cette fuite souterraine les impressionnait, les rendait nerveux. « Nous nous égarons, » répétait Louise. « Non, non, nous approchons, » reprenait Marius. « La preuve, c'est que nous descendons à présent. Nous avons traversé la colline. » Brusquement, à un coude, ils butèrent contre un amas de pierres et de quartiers de roches. « Mon Dieu, encore un éboulement !» s'écria Louise. « Nous sommes murés !» Mais Eugène fit observer qu'on sentait l'air souffler entre les intervalles des pierres. « Parbleu, c'est la sortie !» s'écria Marius. Aussitôt, il se mit à arracher les pierres et à les jeter derrière lui. Eugène l'aida à dégager l'issue. Tous deux s'acharnèrent à la besogne. Bientôt, un rayon de lune pénétra jusqu'à eux. Encore un peu, et l'ouverture était assez large pour leur permettre de passer. Eugène, le premier, se glissa dehors. « Où sommes-nous ? » murmura-t-il. Marius et Louise sortirent à leur tour. Ils se trouvaient au milieu d'un bouquet d'arbres, dans un terrain vague. Un chemin se dessinait à une 20aine de mètres au-dessous d'eux. Un peu plus à gauche, ils aperçurent des maisons accroupies dans la plaine, toutes blanches sous les rayons de la lune. Un grand calme régnait. On n'entendait que l'aboiement lointain d'un chien de garde. Ils gagnèrent le chemin à travers les gazons détrempés par le dégel. « Enfin, » dit Marius intrigué, « où diable sommes-nous donc ?» Eugène courut du côté des maisons et revint bientôt essoufflé. Il avait reconnu l'endroit. C'étaient les maisons de Gorge de Loup. « Ah, nous sommes sauvés !» dit Marius. « Au jour, nous serons loin de la ville. » Il n'est pas probable que les gendarmes nous aient devancés. « Sauvés ! » répéta Louise. « Mon Dieu, soyez bénis !» Elle pressa son frère dans ses bras. « Pauvre petit !» murmura-t-elle. Appuyé sur son bâton, Marius les observait. « Ah ! Que je vous embrasse aussi, Louise ! À présent, n'êtes-vous pas ma femme ?» Sans un mot, elle se jeta à son cou et ils échangèrent un long baiser d'amour. Puis, se dégageant de cette étreinte, les yeux pleins de douces larmes, « N'oublions pas, » reprit Marius, « la route est longue et maintenant il fait jour de bonne heure. » « Oui, allons, allons !» Et, dans le silence de la nuit, tous trois, retrouvant des forces nouvelles, s'éloignèrent rapidement sur la route blanche de lune.